Dans une longue maturation, nous passons d'une Europe économique à une Europe politique. Oui, mais voilà, et là nous en arrivons à l'avenir, voilà que l'Europe économique, c'est le plus difficile pour les pays candidats, dont la République tchèque, et l'Europe politique, ça serait dans une certaine mesure plus simple, puisque nous faisons partie de la même famille, nous avons la même histoire dans notre diversité, nous avons vécu sur les mêmes valeurs, nous sommes déchirés entre déchirés, vous avez connu les empires, le changement des frontières, bref, vous avez votre propre aventure qui n'est pas plus gaie que la nôtre de ce point de vue. Donc l'Europe économique, ça vous énerve, parce qu'il faut traduire dans le droit tchèque et dans la vie 70 000 pages de texte, et il faut aussi que votre économie puisse supporter la concurrence du marché unique, qui est sévère, qui est terrible, et on vous demande, troisième condition, elle est remplie en ici, une démocratie pluraliste, respectueuse des droits de l'homme. Donc, le bon résultat de Nice, le seul bon résultat du Conseil européen de Nice, c'est que maintenant les 12 pays membres n'ont plus aucun prétexte pour mener à bien les négociations avec nous. Ils ne peuvent pas dire, oh, attendez, la maison n'est pas prête, les institutions fonctionnent mal, le contrat de mariage n'est pas rédigé. Non, ils ne peuvent rien dire de cela. Ils doivent, vous devez vous transposer l'acquis communautaire, rude tâche pour tous vos ministres et vos administrations, changer votre système judiciaire, lutter contre la criminalité économique, bref, tout ça c'est dur. Il faut pour ça des ressources humaines, des ressources en compétences et autres. Mais il n'y a plus d'obstacle politique.
Oui, mais l'avenir n'est pas qu'un dessin, c'est aussi des dates, des échéances et des objectifs concrets pour Prague. Écoutons encore M. Delors.
Les 12, les 15 maintenant, ont dans le même temps adopté une déclaration sur l'avenir de l'Europe, dont il faut que vous reteniez très peu de choses. En 2004, ils convoqueront une nouvelle conférence intergouvernementale, c'est-à-dire une discussion pour adapter l'architecture institutionnelle ou constitutionnelle de l'Europe à une Europe à 27. À 27 en attendant d'être plus. Mais d'ici 2004, l'audience est ouverte, on peut réfléchir. Nos chefs de gouvernement ont appelé les sociétés civiles, pas seulement les parlements nationaux et les partis politiques, mais les sociétés civiles, les partenaires de l'économie et du social, à intervenir dans des conditions qui restent à déterminer. Et ils ont également promis que les négociations techniques, notamment sur ce fameux acquis communautaire, devaient être terminées avec les pays les plus avancés, dont vous êtes, à la fin 2002. Ce qui laisse augurer pour les pays qui pourront rentrer dans l'Union européenne en 2003, qu'ils pourront d'une part envoyer des députés au Parlement européen lors de l'élection au suffrage direct en 2004, et qu'ils pourront d'autre part participer pleinement à la conférence intergouvernementale, c'est-à-dire à la définition de l'architecture constitutionnelle et institutionnelle. Bon, les fondements sont là, les projets existent. Il y a une partie de la maison, l'union économique et monétaire, qui pousse plus vite que l'autre. Mais qu'est-ce qu'on va faire à 27? C'est ça la question lancinante que les chefs d'État ne veulent pas regarder en face, puisque les 15 sont autosatisfaits, et vous leur dites, quand entrons-nous? Mais pourquoi faire? Donc la véritable question qui se pose, avant d'en tirer des conséquences institutionnelles, c'est quelle perspective pour cette grande Europe? Et de ce point de vue, je vois pour cette grande Europe, je l'appellerai comme ça si vous voulez, trois perspectives intéressantes. La première, c'est de constituer, c'est banal, un espace commun de paix, une paix active, qui implique la compréhension mutuelle entre les peuples, un bon traitement des minorités, le renforcement de la sécurité des personnes, et qui nous oblige à des devoirs pour permettre aux Balkans, aux pays des Balkans, d'atteindre la même situation le plus vite possible. Donc cet espace de paix active, c'est dans le fond le grand rêve de ceux qui, pendant la guerre, luttant certains contre le nazisme, d'autres résistant dans leur pays, c'est ce projet qu'ils avaient en tête. C'est ce projet que vous êtes invités à partager. Deuxièmement, puisque nous allons vers la globalisation, qu'est-ce que l'on peut apporter, nous, pour essayer de maîtriser cette mondialisation? Eh bien, c'est de faire en sorte qu'à l'intérieur de cet espace de 500 à 600 millions d'habitants, nous soyons en quelque sorte un laboratoire de la mondialisation, que nous arrivions à concilier liberté et ordre. Rôle du marché, avec la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux d'un côté, et de l'autre, le minimum de règles nécessaires, depuis la politique de la concurrence jusqu'à la correction du marché lorsque celui-ci est insuffisant, c'est le cas pour les biens collectifs, éducation, santé, ou bien lorsque le marché est myope, c'est-à-dire qu'il ne prévoit pas l'avenir. Et puis aussi faire un bon équilibre entre le pouvoir monétaire et le pouvoir économique. Toutes choses qui, un jour ou l'autre, devront être traitées au niveau international, puisque les institutions qui ont été créées au lendemain de la guerre ne répondent plus à la nouvelle situation.
C'était donc des extraits de la conférence donnée par Jacques Delors cette semaine à la Faculté des Lettres de l'Université Charles à Prague sur le devenir de l'Europe. Fin de ce programme Économie-Commerce sur les ondes de Radio Prague. En même temps,